Les balados au IC, un projet de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, en collaboration avec Figura, le centre de recherche sur le texte et l'imaginaire, vous propose aujourd'hui un épisode de la série d'entretien Pop en stock.
Bonjour tout le monde, popophile, popologue, popovore de tout poil. Nous voici à nouveau donc dans un spécial du podcast Pop en stock, nouvelle mouture, transatlantique et zoomesque. Et nous avons le plaisir et la chance et l'honneur de recevoir aujourd'hui Anne Besson, qui est une figure incontournable des littératures de l'imaginaire. Bonjour Anne.
Bonjour Antonio, bonjour à tous et à toutes et merci.
Anne Besson, professeure des universités en littérature générale et comparée à l'Université d'Artois à Arras, qui a jusqu'ici donc publié une série d'ouvrages qui ont fait date dans l'étude de la fantasy, mais aussi de la science-fiction et plus globalement des genres de l'imaginaire. Donc en 2004, c'était d'Asimov à Tolkien, cycles et séries dans la littérature de genre, qui était vraiment une grande analyse sur la question de la sérialité littéraire, alors qu'on commençait à s'intéresser aux sérialités plutôt télévisuelles, etc., etc. Et là, c'était vraiment une analyse des fondements plutôt littéraires de cette question, que ce soit donc dans les grandes sagas de fantasy que les grandes sagas de science-fiction, avec cette distinction qui a souvent été réutilisée entre la notion de cycle et la notion de série. Ensuite, un ouvrage de référence qui est La Fantasy de 2007, qui est vraiment l'ouvrage pour tous ceux qui s'intéressent à la fantasy, à la fois du point de vue académique, mais aussi, je dirais que pour tous les gens qui sont sérieusement mordus de fantasy, c'est vraiment un livre à lire, ainsi que le dictionnaire de la fantasy qu'elle a dirigé en 2018. C'est vraiment les deux ouvrages francophones de référence. Puis, un essai en 2015 qui est Constellation des mondes fictionnels dans l'imaginaire contemporain et qui, je crois, peut être ce qui t'a mené à ce nouvel ouvrage donc, qui vient de paraître, Politique de l'enchantement. Dans Constellation, il était question justement de comment les mondes fictionnels ont envahi l'imaginaire contemporain, à la fois sur le mode de la consommation, de l'adhésion, de l'identification, de la réappropriation, de la transformation, de l'essaimage, le rhizome de ces mondes fictionnels que l'on retrouve un peu partout, que ce soit dans les applications du type Pokémon Go, où on essaye de fusionner en quelque sorte la réalité virtuelle fictionnelle avec l'univers quotidien, jusqu'au roleplay, le cosplay, tout ce type d'interaction que tu avais étudié très, très minutieusement dans cet ouvrage. Et j'ai comme l'impression que c'est à partir de ce livre que tu en es venu à te poser les questions du nouveau.
Oui, tout à fait, c'est un prolongement. Alors, le titre, c'est « Les pouvoirs de l'enchantement », je le dis tout de suite pour nos auditeurs et éditrices qui chercheraient à le trouver ensuite dans les moteurs de recherche. Et oui, c'est vraiment un prolongement de Constellation sous une forme très différente, puisque là, l'idée, c'était de faire à peu près l'inverse de Constellation, qui est un gros pavé. J'ai un peu alterné des sommes comme Cycles et séries ou Constellation et des ouvrages beaucoup plus courts et se voulant accessibles, c'est peut-être un très grand mot, mais accessibles à un public étudiant et universitaire très clairement, comme La Fantasy en 50 questions et celui-là qui est beaucoup plus court, qui est beaucoup plus resserré sur une question. Mais effectivement, la question, elle prolonge celle de Constellation, c'est vraiment la manière dont notre fréquentation permanente des univers fictionnels qui sont dominés par les genres de l'imaginaire font qu'ils se mêlent de plus en plus intimement à la manière dont on conçoit la réalité qui nous entoure et notamment à la manière dont on peut concevoir nos engagements politiques et civiques.
Oui, et en fait, c'est d'ailleurs aussi très intéressant de voir qu'entre 2015 et 2020, Peut-être quelque chose qui, en 2015, quand tu publies, ben surtout quand tu travailles un peu avant sur l'ouvrage de Constellation, c'était pas quelque chose qui était devenu aussi clair. Donc, je te cite. On y voit en effet, donc, à notre époque, mais dans l'extrême contemporain, des œuvres sérielles et multimédiatiques, Avatar, Hunger Games, Harry Potter, Game of Thrones, qui font partie d'une culture générationnelle très partagée et qui se rattachent au genre dit de l'imaginaire, ou un acronyme assez sympa, SFFF, donc science-fiction, fantastique, faire l'objet d'une double appropriation, au service d'actions directement politiques d'une part, des manifestations, des élections de représentants en France, aux États-Unis, mais aussi un peu partout dans le monde, et d'autre part, au service d'une contestation plus diffuse de la clôture narrative, remettant en cause les prérogatives du texte et ou des auteurs et autrices à dire définitivement le vrai quant à la fiction qui s'y déploie, au nom d'un droit des récepteurs à juger de la valeur d'une œuvre, selon des critères à la fois esthétiques et moraux, associant le bon et le beau, le kalos agathos. Donc, vraiment, ce double tournant, donc d'un côté, toutes ces manifestations que tu évoques dans ce nouveau livre, qui sont beaucoup plus politiques que celles que tu évoquais dans Constellation, où on était beaucoup plus du côté du ludique, de la ludification de la vie quotidienne, etc. Là, on a comme une extension politique dans le domaine de l'activisme, du militantisme, mais aussi à l'intérieur du fandom. Et ces deux phénomènes, en quelque sorte, sont apparus entre les deux livres. Il y avait déjà des choses un peu plus anciennes, etc. Mais en tout cas, leur visibilité très claire, elle est parue. Donc, quelque part, c'est assez intéressant de voir aussi comment ton regard épouse finalement la transformation de ces appropriations.
Oui, tout à fait. Moi, en fait, ça fait littéralement 20 ans que je travaille sur ces objets-là, ce qui me permet de les voir évoluer et d'essayer effectivement de m'attacher à chacune de leurs mutations successives. Donc, effectivement, il y avait quelques petits éléments dans Constellation, par exemple, dans je ne sais pas si vous vous rappelez Second Life. Hein, Second Life, ça a été un métavers très très fréquenté à un moment avant de tomber très largement dans l'oubli. Et ça avait donné déjà à ce moment-là, c'était une espèce de pré-Fortnite en fait. Hein, le Second Life, il y avait eu par exemple pas mal de manifestations qui avaient été organisées à l'intérieur de Second Life où il y avait plein eu tous les partis politiques se devaient d'avoir une représentation virtuelle à l'intérieur de ce monde-là. Donc, c'est des choses qui avaient d'emblée été tentées. Et puis, l'exemple que je prends tout du long dans Les Pouvoirs de l'Enchantement, qui est celui de Harry Potter et de J.K. Rowling, sur lequel donc, je travaille depuis 20 ans, était aussi un exemple qui commençait à poser pas mal de bases de ce que je suis jusqu'ici, en particulier sur les conflits de pouvoir, les conflits d'autorité entre l'auteur et les publics, entre les auteurs et les publics, notamment sur des questions de représentation, d'inclusivité, de diversité, etc., et c'est ces questions-là qui sont vraiment allées en montant en puissance.
C'est très curieux parce que l'impression qu'on avait avec Constellation, par exemple, même par rapport à Second Life, ce qui avait beaucoup attiré l'attention initialement, c'était plus le côté que l'univers de consommation s'y projetait. On pouvait acheter des choses dedans, il y avait la mode, il y avait des défilés de mode à l'intérieur de Second Life, des promotions de produits, etc. Et la politique était un peu prise au milieu de tout ça, on dirait. Et alors que maintenant, c'est devenu vraiment le pilier principal. Donc, il y a peut-être eu comme un déplacement, non, même si les autres logiques continuent absolument à l'œuvre. Et tu le signales, donc, quand tu parles d'un double paradoxe, tout d'abord, ce sont des productions de la culture populaire ne relevant très manifestement pas d'une lecture réaliste qui se voient promues comme modèle pour penser l'action sur le monde et tenues d'en refléter au mieux la diversité. Donc ça, c'est un premier paradoxe qui a un peu quoi surprendre.
Oui, alors, qui est vraiment lié justement à la montée de cette culture-là depuis le tournant du 20e, 21e siècle. C'est vraiment ça qu'on a à notre disposition aujourd'hui. Et par on, je nous inclus généreusement, mais c'est plutôt les générations plus jeunes que nous qui, eux, sont vraiment, voilà, ont vraiment grandi dedans. Et donc n'ont pas connu autre chose et donc pensent vraiment, peuvent, peuvent penser le réel au prisme de ce qui a été leur consommation culturelle générationnelle partagée très très massive, qui est celle-là, et dont on constate que si elle a si bien marché, alors c'est pour tout un ensemble de raisons qui me semblent très largement liées à l'impact qu'a progressivement eu le numérique dans nos vies pendant ces mêmes décennies, mais dont on a pu constater que justement elle permettait une pensée sur le réel et sur le présent extrêmement efficace, hein, contrairement à ce qu'on pouvait penser encore il y a un quart de siècle. C'est-à-dire que leurs vertus de reflet décalé sont devenues évidentes pour les publics qui les consomment et qui se les approprient, et pour lesquels ce paradoxe est largement réduit, en fait. C'est pour nous que c'est un paradoxe, et même plus tant que ça, parce que c'est vraiment une espèce d'antienne qu'on entend, qui est même un peu pénible à propos de la SF, par exemple. Il y a pas mal d'auteurs de SF qui commencent à s'en détourner, tellement il y a un côté utilitariste, hein, dans la perception aujourd'hui des genres de l'imaginaire. C'est-à-dire que vraiment, il y a de plus en plus une vulgate qui dit « Ah bah oui, bien sûr, la SF, elle parle du présent ». Et d'ailleurs, c'est à ça qu'elle sert. Et d'ailleurs, elle nous sert à penser, si elle nous servait à penser, les armées de demain, mais vraiment de demain, quoi, pas d'après-demain ou pas dans plus longtemps. Donc, cette fait que l'imaginaire et le réel soient désormais très intimement associés est devenu quelque chose qui est tout à fait consensuel, hein, qui fait partie d'une connaissance vulgarisée, enfin d'une, ouais, la manière dont les publics perçoivent ces genres-là, au point de pouvoir en venir à menacer ce qui fait leur intérêt même, hein, du point de vue des créateurs comme des publics. Donc, c'est aussi des choses sur lesquelles des dangers, des menaces éventuelles sur lesquelles j'attire l'attention dans cet ouvrage.
Oui, un de ces paradoxes, enfin, ce qui reste paradoxal aussi, c'est qu'au fond, ce sont des productions totalement commerciales, c'est des productions au cœur du mainstream, que l'on veut réinvestir de façon politique, alors qu'en général, ce qui est devenu très minoritaire, c'est par exemple le cinéma social. C'est-à-dire que ce qui est curieux, c'est qu'on n'a pas tant envie d'aller voir des films sur les vraies conditions, par exemple des migrants, qui est une catastrophe humanitaire, comme on sait, majeure à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Or, très peu de gens s'intéressent à aller voir des films sur ça, mais par contre, on va s'activer sur la représentation d'un personnage qui est bleu ou vert dans un univers. Donc ça reste paradoxal quand même.
Oui, alors je pense que là, pour le coup, c'est des questions de public, c'est des questions de niche, tu vois, de segmentation des publics qui sont quand même de plus en plus importantes aujourd'hui. Alors, de notre point de vue de spécialiste de la culture pop, bien entendu, on voit ça, et clairement, c'est une partie importante de la consommation culturelle. Mais si tu regardes les programmes des derniers festivals de Cannes, et les retours sur les derniers festivals de Cannes, etc. Au contraire, la production de cinéma qualitatif, donc ça ne s'adresse pas du tout au même public, hein, et ça ne s'adresse pas à la même taille de public. Ceci dit, ça n'a jamais été aussi bien représenté. Et c'est pareil pour la littérature contemporaine blanche. La littérature contemporaine française est réinvestie par le social et par le politique d'une manière qui n'était pas envisageable avant, ou au contraire, on avait des histoires très bourgeoises et intimistes. Ça, on l'a de moins en moins. La repolitisation du culturel, ça me semble quelque chose qui est complètement transversal, c'est-à-dire qui n'est pas limité au genre de l'imaginaire, où effectivement, ça prend une forme très bizarre et donc très intéressante. Mais ceci dit, c'est vraiment quelque chose, quand je présente mon travail dans des séminaires plus généralistes, je sais pas, par exemple, il y a un spécialiste de poésie contemporaine, Benoît Auclair, qui était venu me voir et qui m'a dit, mais oui, c'est tout à fait frappant dans mon domaine. Aujourd'hui, les poètes, ils se veulent engager. Cette notion de l'engagement, qui était une vieillerie, voire un gros mot, est quelque chose qui est vraiment revenu de manière vraiment forte dans le culturel, parallèlement à une espèce de repolarisation du politique. C'est-à-dire, moi, une des idées du bouquin, c'est qu'on est dans un cycle qui nous ramène à quelque chose qui peut rappeler les années 70 en termes de mobilisation, notamment du culturel, au service d'idéologies très marquées, très dans les extrêmes.
Mais la comparaison est très intéressante parce qu'en fait, dans les années 70, c'est le nouvel Hollywood. Or, la transition, voire la rupture, c'est justement Spielberg et Lucas, c'est-à-dire c'est les jeunes du nouveau Hollywood qui tout à coup transforment complètement l'industrie de sa phase contestataire en une phase qu'on peut dire régressive politiquement si l'on l'étudie sur l'angle des mouvements des années 70, clairement comme une sorte de backlash. Et d'ailleurs, on a pu voir comment le cinéma de Spielberg et Lucas a préfiguré en quelque sorte la révolution conservatrice de Reagan. Donc au fond, or le paradoxe, c'est que ce qui revient effectivement, tu le dis bien dans le fait que c'est en train d'arriver dans les deux extrêmes de la consommation culturelle, c'est-à-dire dans le circuit très restreint du Festival de Cannes ou de la littérature blanche, qui c'est vraiment une sorte de peau de chagrin maintenant dans la consommation culturelle à l'échelle planétaire. Mais
oui, mais en même temps, du point de vue de la légitimité. Et d'une certaine visibilité intellectuelle, c'est très important aussi. Oui. Donc le fait que les deux soient convergent, c'est pas inintéressant.
Oui, c'est ça. Mais en fait, que ça se traduit de façon très très différente, puisque dans un sens, on est effectivement dans un retour à cette contestation des années 70 telle qu'elle s'était établie autour de nous, cinéma politique italien, français, espagnol, etc., nouveau Hollywood américain et tout ça. Mais du côté du mainstream, ce qu'on a, c'est le triomphe absolu du blockbuster et de la logique de la franchise, etc., etc. Donc, c'est assez curieux de voir que dans les deux bouts du spectre, on a un phénomène de politisation, mais qui a des conséquences très différentes. Et c'est ce que tu étudies effectivement dans les différents paradoxes que tu étudies. Je cite aussi « La libération des univers narratifs du carcan des autorités, des différentes instances de canonisation, de légitimation, de décision même, n'en va pas moins de pair avec l'imposition de nouveaux critères normatifs émanant cette fois des publics. » Donc ça aussi, c'est un curieux paradoxe.
Oui, et c'est vraiment là aussi une question vraiment vive actuellement de ces nouvelles contraintes que moi, je le dis, je considère de manière très positive, mais aussi avec à chaque fois des questions, des retours sur chacun des nouveaux cas qui se présentent. C'est quelque chose qui est peut-être déjà plus naturel en Amérique du Nord, hein, puisque je parle essentiellement à des Québécois aujourd'hui, mais qui en France fait encore l'objet de barrages très forts, hein, c'est-à-dire que nous, les générations d'universitaires et d'intellectuels qui ont plus de 45 ans sont très inquiets de ces nouvelles revendications des publics où ils sentent une forme de censure possible. Donc c'est vraiment un sujet qui actuellement est en train d'évoluer à coup de polémique, à coup de polémique à chaque fois, et à mon avis de manière beaucoup plus feutrée au fur et à mesure que les générations sont en train de se renouveler. Mais bon, voilà, on n'est pas loin de la polémique sur l'islamo-gauchisme qui, tu le sais, déchire actuellement, enfin je suppose, qui déchire actuellement l'université française, hein, voilà, où certaines lectures sont de sociologiques notamment, hein, sont accusés de déchirer la République en deux. C'est les expressions qui ont été utilisées. Donc on est vraiment dans un moment, alors là pour le coup assez inquiétant du point de vue du contrôle politique sur les libertés académiques, où la prise d'autorité, la volonté de diversification et éventuellement autoritaire qui se développe actuellement, fait l'objet de craintes très vives la part de notre pays très, très universaliste jusqu'ici, et qui refuse de voir ce que cette idée d'universalité cache de défense des privilèges, quoi.
Il y a aussi toute la question du rapport avec le populisme, c'est-à-dire que C'est un terme qui ne semble pas t'avoir comme inquiété dans la politisation, mais c'est un élément qui, tant à droite qu'à gauche, est une des caractéristiques de la polarisation contemporaine et aussi le lien avec évidemment les réseaux sociaux, les algorithmes, la radicalisation, les processus de radicalisation des uns et des autres. Et la crise un peu du commun, en fait, par rapport à ça. Ou en tout cas, un commun totalement redéfini par ces experts.
Oui, les fictions dont je parle, ces espèces d'énormes franchises, à la fois, le paradoxe vraiment fondamental, hein, c'est qu'elles sont à la fois les 1%, hein, voilà, c'est elles qui dominent et qui écrasent tout le reste de la production, culturelle. C'est-à-dire que les inégalités, voilà, dont on souffre et contre lesquelles on veut lutter, elles sont totalement reproduites, hein, dans le monde culturel. Et les fictions dont je traite sont ces monstres hégémoniques, hein, complètement, non seulement au service, mais identifiables, à ce contre quoi il faudrait lutter. Bon. Et en même temps, elles sont aujourd'hui ce qu'on a en commun, ce qu'on partage et dont on peut se ressaisir. Enfin voilà, il y a ici une image de la lutte des classes et de la réappropriation du capital qui me semble tout à fait évidente et forte. Voilà, donc c'est cette idée-là que j'ai envie de porter, qui reprend la division, mais parfaitement traditionnelle en cultural studies, entre la culture de masse et la culture populaire. Voilà, la culture de masse ne devient populaire que dès lors qu'elle est appropriée par des publics qui en font autre chose que ce pourquoi elle avait été conçue au départ. Voilà, c'est ce processus tout à fait classique, mais qui a pour symétrique, on le sait aussi, les récupérations permanentes dont tous les mouvements contre-culturels ou tous les mouvements de subversion de l'hégémonie font continuellement l'objet par ceux qui tiennent le capitalisme et ceux qui produisent les récits qui finalement vont nous être donnés. Donc c'est un mouvement qui est hyper complexe et qui ne doit pas être simplifié d'un côté comme de l'autre. Mais ce qui est évident, c'est que des jeux de pouvoir très, très forts s'y jouent et qu'il ne faut pas ignorer et qu'il ne faut pas, qu'il faut pas laisser glisser du côté du populisme. Enfin voilà, on a les armes comme les autres.
Ça me rappelle une des anecdotes de un des directeurs de Levi's qui, en voyant les reportages sur Woodstock, disait c'est la meilleure publicité pour nos jeans. Donc au fond, c'est aussi tout ça, non?
Oh, mais tu vois, c'est le punk chez H&M, quoi.
Même chez McLaren, parce qu'en fait, c'était lui aussi qui a designé le punk à la fois comme un truc situationniste, mais aussi comme une entreprise de sa boutique à lui. Enfin bon, tout ça, ces rapports complexes entre contestation, récupération, contre-culture, culture de masse, etc. Le fait aussi, tu signales, en citant Alexandre Geffen, qu'il y a un retour, donc je te cite, de la transitivité dans notre appréciation des œuvres culturelles, qui là aussi fait un peu contraste avec ce avec quoi on avait été largement éduqué, qui était l'idée née surtout au 19e siècle, de l'autonomie du littéraire et de l'artistique, et qui tout à coup, on revient en quelque sorte à des considérations pratiquement. Enfin, c'est jamais un retour, évidemment, c'est toujours l'histoire qui réutilise, recycle et transforme, mais en tout cas, on revient un peu à l'idée de instruire en amusant. Tous les préceptes classiques, l'idée que l'œuvre doit être quand même didactique, qu'il y a un rôle social des fictions, etc. Et tu cites Alexandre Geffen qui signale qu'il y a un imaginaire collectif particulièrement actif depuis le début du nouveau millénaire, où la littérature, mais l'art en général, la culture, en place de la religion et d'un projet politique, veut réparer nos conditions de victimes, corriger ces traumatismes de la mémoire individuelle ou du tissu sociétal. Donc, et qu'il y a une évolution donc comme un effet secondaire du retrait des autres formes d'explication du monde, politique et religieuse, une manière de demander à l'écriture et à la lecture de réparer, renouer, ressouder, combler les failles des communautés contemporaines, etc. Donc, ça aussi, c'est aussi le va-et-vient entre la littérature restreinte, la circulation restreinte, en tout cas la haute littérature, la littérature blanche, dite blanche, de par la collection à la couleur blanche de Gallimard. Donc, à la fois, quelque chose qu'on constate de ce côté-là, mais surtout sa traduction dans la culture de pop, non? Le fait que cette transitivité, c'est aussi ce qu'exigent les fans.
Oui, tout à fait. Alors, Geffen, c'est un ouvrage qui s'appelle Réparer le monde, donc qui s'appelle La littérature française face au XXIe siècle. Donc, lui, il parle vraiment de la littérature blanche, hein, de la littérature restreinte. Il emprunte le titre de son intro qui s'appelle Réparer les lisants à l'ouvrage de Maëlys de Kerangal, Réparer les vivants. Et donc, il parle beaucoup, notamment de tout ce qui est récit choral ou récit choraux. Qui se sont beaucoup développés dans la littérature française contemporaine, donc la littérature générale, avec vraiment la volonté donc de faire communauté, de représenter des communautés. Cette question de la communauté, elle est évidemment beaucoup plus évidente et centrale et très représentée dans la culture populaire et dans les cultures médiatiques, et puisque bon, voilà, c'est les communautés en ligne, celles qui communiquent dans les réseaux sociaux, le font beaucoup plus autour de ces formes de culture-là. Là encore, pourquoi? Pour des questions que à l'origine, les premiers fandoms constitués, à savoir ceux de SF et de fantasy, on avait les outils d'emblée pour prendre pied sur Internet dès sa création, si bien que voilà, les gens qui sont arrivés sur Internet y ont déjà trouvé ces fans-là. Je pense que c'est un des éléments qui a permis la croissance exponentielle de l'intérêt autour de ce type d'objet qui souvent était déjà ancien et qui a gagné de nouveaux spectateurs, de nouveaux joueurs, et les univers ont pu se redéployer à partir de ce tournant du XXIe siècle, puisqu'en général, les univers les plus contemporains, les plus étendus, prennent leur source dans des ouvrages ou des films qui prédatent de la deuxième moitié du XXe. Je ne sais plus du tout où je voulais en venir. Du coup, j'ai fait... Oui, l'hétéronomie. Ouais, donc, ce que j'ai fait appelle transitivité, on peut l'appeler vraiment dans les... On peut reprendre les termes de Bourdieu, hein, et tu l'as fait d'ailleurs toi-même en parlant de littérature, de champ de circulation restreinte. Donc c'est l'opposition entre autonomie et hétéronomie, et le passage, alors il me semble progressif et pas encore complet, d'une valorisation vraiment forte des valeurs liées à l'autonomie de la culture, c'est-à-dire la culture est l'art est art dans la mesure où il ne tire sa valeur que de lui-même. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a dominé les visions modernistes de la culture et continue en fait à être une des sources des problèmes qu'on rencontre dans notre rapport, quand on parle de la culture populaire. C'est-à-dire qu'on continue à avoir souterrainement des réflexes modernistes ou légitimistes. C'est-à-dire voilà, des moments où on se pose des questions qui, en fait, n'ont de sens que selon ces critères-là. Et donc, on est en train de glisser lentement de ces critères d'autonomie à un retour de l'hétéronomie que la culture populaire et la culture de jeunesse... Et les deux sont très très liés, pour moi qui travaille sur les deux, que la culture de jeunesse et la culture populaire n'avaient jamais complètement abandonné, puisque ce sont par définition des littératures qui sont au service d'un certain public, et qui, si elles se distinguent d'une manière qui n'est pas garantie, mais si quelque chose les distingue du champ du mainstream, c'est précisément le fait qu'elles acceptent plus visiblement, plus explicitement, de se plier à des attentes préconçues de ce qu'elles supposent être leur public.
Oui,
en leur donnant davantage ce qu'ils attendent ou en prenant en compte des contraintes, par exemple morales, dans le cas de la littérature de jeunesse.
Oui, oui, tout à fait. Alors qu'effectivement, toute la littérature, depuis Baudelaire, depuis les romantiques, etc., était du côté de la transgression de la morale, du côté de la contestation de la morale, et tous les procès, le double procès donc, de Baudelaire et de Flaubert se situent tout à fait dans cette charnière-là. Et le fait que finalement, ils ont gagné sur le plan symbolique et qu'on considère que bien que c'était des œuvres qui allaient contre la morale, c'était les œuvres qui sont devenues canoniques de la modernité. On dirait qu'on est dans une sorte de, tu le signales par ailleurs, comme dans une nouvelle étape qui a à la fois des éléments de la transgression, mais aussi les éléments de la moralisation. Ou en tout cas...
Oui, 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 c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. On est effectivement là, les nouveaux procès, ils se font dans l'autre sens. Hein. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, ils invitent à ne pas distinguer l'homme et l'œuvre. Mmh. Alors, ça aussi, c'est quelque chose qui est une inversion quasiment hein, de ce qui était, de ce qui avait été gagné par les auteurs à une certaine époque. Mais qui n'a jamais été vrai non plus. Hein. Donc, c'est tout le problème souterrain que ça pose. C'est-à-dire que en fait, la personnalité des auteurs, elle a toujours eu un impact dans la manière dont on pouvait recevoir et percevoir leurs œuvres. Donc, voilà, on a voulu nous faire croire que non, de la même manière qu'on a voulu nous faire croire que, je ne sais pas, on n'avait pas de lien affectif avec les personnages, parce que ce n'était pas des personnages, ce n'était pas des personnes, hein, c'était juste des êtres de papier. Et ça n'a jamais été vrai non plus. Donc, voilà, il y a des évolutions comme ça, mais qui sont effectivement, des évolutions très profondes hein, sur...
C'est des paradigmes.
Ou des cycles, hein, c'est plus en termes de cycles.
Oui, et même on dirait que c'est des paradigmes. C'est sûr que si on juge ce qui est en train d'arriver par rapport au paradigme de cette littérature de la transgression depuis Sade, depuis les libertins, au fond, bah, du coup, effectivement, on va crier au retour à l'ordre moral, au puritanisme, etc. Maintenant, si on se place dans une perspective plus large, on voit que finalement, ce sont des tensions qui ont toujours entouré. C'est sûr que ce n'est jamais le dernier mot, de toute façon. Donc, tout ça est toujours possible.
Mais c'est des renégociations. Oui. C'est des renégociations de rapports du pouvoir.
Donc, tu cites aussi, donc, tu analyses aussi ces différentes visions par rapport à la fiction. Et je te cite aussi, « Nous vivons en effet une ère de la fiction, comme tu l'as diagnostiqué dans « Constellation », et si certaines manifestations en sont enthousiasmantes, la multiplication des univers proposés et des communautés qui trouvent à y créer des liens, elles n'en ont pas moins de contreparties extrêmement préoccupantes. » Et tu cites « Le règne du fake », voire du deepfake, et la menace qui pèserait sur l'esprit critique et sa capacité de discrimination du vrai. Donc, toute la question des théories du complot, etc. Et tu reviens un peu plus loin, de façon plus étendue, sur cette bivalence. Les fonctions positives identifiées et promues de la fiction vont du gain cognitif au développement de l'empathie, du répertoire des styles de vie au partage du sensible, de l'immémoriale consolation à la plus récente réparation. Mais, de l'autre côté, les effets négatifs, pour leur part, correspondent à des formes de contamination épidémique depuis la fiction, entraînant violence, bêtise et dépravation. Donc, ce qu'on a accusé les romans, le cinéma, la télé, les jeux vidéo, Internet, etc., et où un retrait de la vie réelle, souvent diagnostiqué comme une forme d'addiction aux écrans connectés, aux séries binge-watchées pour les jeunes d'aujourd'hui et les pas si jeunes. Et du coup, tu te poses la question, comment sauver la fiction pour ceux qui l'aiment et la défendent, ne garder que les effets positifs et pas les négatifs, pouvoir affirmer la fiction est efficace, mais elle n'est pas dangereuse. Et parce que tu soulignes effectivement que si on donne une grande efficacité à la fiction, du coup, on accepte aussi la possibilité de ça.
Oui, tout à fait. C'est effectivement complètement le temps dans lequel on vit, où l'invasion du Capitole par un gars déguisé en bison avec des tatouages néo-chamaniques, ça fait partie aussi du même phénomène. Et puis, le QAnon auquel il se rattache, c'est une espèce de récit qui rappelle vraiment les procès en sorcellerie, enfin où il y a vraiment des espèces des mythèmes communs comme ça qui se baladent. Donc c'est cette diffusion des récits, diffusion largement incontrôlée, hein, de récits qui doivent être reconnus comme fictionnels et qui ne le sont pas toujours, hein, qui est au cœur du problème. Après, le passage que tu citais, c'était et comme largement mon essai, c'est une espèce de retour sur ce qui existe comme théorie de la fiction qui peut nous permettre de comprendre tout ça ou de mettre en perspective tout ça. Hein. C'est-à-dire, voilà, on a effectivement cet arsenal théorique qui existe déjà et qui, si on en prend connaissance, peut nous guider sur qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux attitudes, comment est-ce qu'on peut défendre à la fois les uns et les autres. Voilà, comment expliquer tout ça pour dépasser le constat et le sentiment d'ébahissement, hein, que ça peut produire, pour réancrer la situation contemporaine, qui certes est extrême, dans des éléments déjà identifiés de nos vies culturelles à très long terme, hein, sur des phases vraiment séculaires, puisque ces histoires de procès en sorcellerie, ils sont très bien étudiées. Et effectivement, ils ont fait, et c'est un exemple de contamination fictionnelle. C'est-à-dire, on a des éléments de récit qui sont répétés, qui prennent, parce qu'il se rattache à un certain nombre d'éléments anthropologiques et sociologiques de l'époque, et donc ils sont rapportés comme vrais à différents endroits, et donc ils s'affirment en tant que vérité non fictionnelle par la multiplication des témoignages, et on va les retrouver, mais quasiment vraiment dans les mêmes termes, dans les bouches de femmes torturées un peu partout en Europe, quoi. Donc c'est des exemples antérieurs qui peuvent nous servir.
Oui, oui, les protocoles des sages de Sion, quantité de gens qui continuent à considérer que c'est un document, alors que depuis l'époque même de sa fabrication, ça avait été dénoncé comme un faux, tiré d'un extrait de roman feuilleton, plutôt d'un pamphlet, réagencé, réapproprié. Les paniques sataniques des années 70, beaucoup plus récemment, dont QAnon se nourrit, parce que toute cette idée d'une caste d'élite cannibale, pédophile, satanique, etc., c'est quelque chose qui vient des années 70, où il y avait un retour de tout cet imaginaire-là, etc., etc. Donc oui, il y a un effet très, très, très inquiétant de la fictionnalisation de ce que tu appelles, à juste titre et de façon lumineuse, l'ère de la fiction. En même temps, moi, ça me rappelle le constat beaucoup plus pessimiste de Baudrillard, pour qui, de toute façon, cette idée de distinction est complètement foutue. C'est-à-dire qu'on est juste passé de l'autre côté et qu'on est dans un hyper-réel où la question de se poser qu'est-ce qui est fiction, qu'est-ce qui est vrai, finalement, est devenue indécidable. Enfin bon, cette aporie, donc c'est clair que tu luttes contre cette aporie. C'est bien d'ailleurs, puisqu'il faut bien vivre. Et que Baudrillard, autant je l'aime, autant c'est clairement quelqu'un qui est du côté des apocalyptiques, selon le terme de Umberto Eco, et que bon, c'est pas toujours évident de se dire quoi en faire. Mais bon, pour ma part, il y a cette idée-là que peut-être on est quand même face à quelque chose qui est un brouillage très profond, où la question de la fiction et du réel, et d'ailleurs le fait que on continue à se la poser inlassablement, montre bien qu'on a quand même beaucoup de mal à la...
Oui, mais là encore, elle l'a toujours été, en fait. Enfin, c'est de la même manière qu'il ne faut pas qu'on se dise qu'on est là. On n'est pas la première génération à penser que le monde va finir. On n'est pas... ça a toujours été le cas. Et ça, je trouve ça profondément réconfortant. Oui. Parce que, je veux dire, on est toujours là. Hein. Donc, tu vois, en l'an 1000, je pense pas qu'ils auraient parié qu'on serait toujours là. Eh ben, on l'est. Donc...
depuis la, au moins depuis la modernité, mais on est dans la crise. Et donc après, bon, il y a, parce que là, bon, on traite les questions les plus ardues, disons, de ton ouvrage. Mais l'ouvrage est par ailleurs extrêmement plaisant à lire pour la quantité de phénomènes que tu invoques. Je pense que c'est aussi un livre un peu réparateur dans le sens que tu cites plein de choses qui ont été vécues dans le traumatisme de la confrontation, dans la polémique, dans le côté c'est la fin du monde justement. Donc dans un côté d'une grande crispation. En fait, il y a une grande crispation autour de tous ces trucs-là que tu évoques. Et c'est vraiment, il y a une certaine sérénité dans ton travail, dans la façon dont tu essayes de faire justement la part des choses. Et au fond, pouvoir orienter la réflexion au milieu de ces immenses cas. Alors, parmi les choses que tu évoques et que les adeptes de Pop en Stock aiment, il y a évidemment la question de la science-fiction et la question de la fantasy. Donc, pour la science-fiction, il y a toute cette question, donc c'est tout un pan de ton travail, de, du livre, qui est le paradoxe, a priori, donc, que de cette idée que la science-fiction ne relève pas, comme on pourrait le croire naïvement, d'une sorte de futurisme, mais au contraire de quelque chose qui est essentiellement de l'ordre du présent, voire du présentisme. Et donc, tu fais des analyses de beaucoup d'œuvres, parce qu'on est parti sur l'aspect le plus théorique d'ensemble, mais au fond, il y a aussi beaucoup, beaucoup de réflexions très, très ancrées dans les œuvres. Il y a notamment, par exemple, des analyses très intéressantes sur les représentations dystopiques, que d'ailleurs, tu appelles, tu veux revenir au terme initial de utopie, de non-lieu. Et dans ces dystopies, cette idée de plus en plus prégnante et très politisée de l'opposition entre les one percenters et donc la question du 1% des élites qui survivent, les autres dans des sortes d'univers très, très dégradés. Et là, tu le retrouves dans quantité d'œuvres contemporaines. Donc, c'est vraiment un imaginaire contemporain qui est... à peine en train de transposer de façon futuriste ce que les gens pensent déjà du présent.
Ce lien au concept de présentisme, donc qui est un concept de l'historien François Hartog, je le prends directement à Irène Langlais, que je cite amplement, puisqu'elle écrivait son propre bouquin qui s'appelle Le temps rapaillé, science-fiction et présentisme, en même temps que moi, et que voilà, comme c'est une vieille collègue et amie, on discutait beaucoup sur cette. Enfin, voilà, on s'échangeait nos livres. Et donc, oui, moi je traite de ce corpus des dystopies pour ados parce que c'est un des champs qui est le plus explicitement politisé. C'est vraiment, là pour le coup, un domaine culturel qui a connu, bon, a priori c'est sur la fin, hein, comme tous les phénomènes très, qui se développent à la vitesse de la lumière. Voilà, c'est un phénomène de mode, hein, donc il est déjà en train d'être reconfiguré autrement avec, je sais pas, de la cli-fi par exemple, de la climate fiction plutôt que les mêmes dystopies, parce que voilà, on commence à avoir un peu fait le tour, mais qui est un domaine qui est beaucoup méprisé, qui n'intéresse pas grand monde, parce que c'est des produits un peu à la chaîne pour un public de grands ados, pas forcément très, très exigeants, alors qu'il y a des super bons trucs là-dedans, notamment la trilogie du chaos en marche de Patrick Ness, qui a fait l'objet d'une adaptation dont la sortie est repoussée, repoussée, repoussée à cause de notre ami Covid, mais donc on y croit. Et effectivement, ça c'est un champ de la littérature, alors dont on peut estimer que par la répétition, elle produit un effet d'habituation, comme tout ce qui est esthétique du désastre, voilà, fictionnalisation de la catastrophe, c'est toujours le point qui est sur lequel mettent le doigt, hein, les regards critiques. Les regards pessimistes, hein, comme le, voilà, c'est un effet cathartique, hein, et d'habituation, en fait, on s'habitue au désastre. Ce qui ne me semble pas complètement pris en compte par ces lectures-là, c'est le fait que justement le public est jeune et il n'a pas connaissance d'un énorme champ culturel. En fait, ils n'en connaissent pas beaucoup. Ils en connaissent quelques-uns qui les frappent très fort parce que c'est parmi les rares choses qui pénètrent à ce moment-là leur espace mental et culturel en train de se former. Donc, je pense que souvent, on juge mal la littérature de jeunesse et la littérature pour ados ou young adultes parce qu'on la juge de notre point de vue de public averti qui reconnaît des tropes et qui n'en peut plus. Et ce qu'on apprécie, c'est les choses qui sont moins jeunesse. Alors que c'est vraiment un tort. C'est trop. On les connaissait pas au départ. C'est petit à petit qu'on a appris à les reconnaître et à s'en lasser. Alors ça peut aller assez vite aujourd'hui parce que la consommation de fiction est assez frénétique. Mais je pense que ces premières confrontations avec une littérature explicitement politique qui dit la faillite des aînés, la faillite de la génération précédente et la nécessité de la révolte de la jeunesse, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant à considérer en soi pour le message à succès que ça a pu transmettre.
Oui, et tu analyses, outre le boom donc, des dystopies, l'émergence de la dark fantasy, donc cette sorte de vision de plus en plus sombre, illustré entre autres par Game of Thrones, mais bien d'autres encore plus angoissants et inquiétants. Or, avec la fantasy, ce qui est très curieux, c'est que a priori, c'est le mouvement inverse que celui de la science-fiction, puisque ce n'est pas une projection dans le futur, mais c'est je cite, renverser le cours de l'histoire, de la modernité notamment. Autrement dit, ce que ne cesse de faire la fantasy, dont le mouvement fondamental nostalgique dessine un retour en arrière en tentant déjouer les déceptions et désenchantements du passage du temps. Donc, c'est assez curieux parce que autant dans les dystopies que dans cette sorte d'imaginaire prémoderne de retour vers une sorte de communauté, tu cites la question de la Gesellschaft, l'opposition de Tönnies, donc de la sociologie allemande, donc cette sorte de retour à des communautés avant l'industrialisation, etc., etc., elle est aussi devenue très dark et très anxiogène. Donc c'est assez curieux, les deux extrêmes, donc temporels de l'imaginaire, sont tous les deux envahis par une vision au fond très très noire, voire hobbesienne de l'humanité.
Oui, alors c'est moins vrai pour les publics plus jeunes, mais effectivement à partir du moment où on commence à s'adresser aux ados, il est désormais d'évidence commune que la nature humaine est sombre et que... Et en même temps, alors donc c'est tenu comme évidence commune, comme point de départ, qui va invariablement être dépassé dans ces fictions, oui. Parce que ça reste des fictions optimistes. La fantasy, elle reste conforme à la définition qu'en avait donnée Tolkien, à savoir, c'est une littérature d'évasion et de consolation qui finit par une e-catastrophe, une catastrophe inversée, malgré tout ce qu'on pouvait craindre et que, effectivement, la fantasy la plus récente en rajoute sur les couches de ce qu'on peut craindre et comment c'est pas gagné, on n'est pas sorti des ronces, malgré cela, eh bien, tu vois, il suffit que Arya saute sur, attention spoiler, sur le chef des marcheurs blancs et pof, c'est fini. Et puis voilà, business as usual, alors que Westeros semble quand même s'enfoncer dans la détresse économique, il semble qu'on puisse se relancer sans plus de problèmes que ça. Donc Voilà, je suis une optimiste, mais je pense qu'il y a le rôle consolateur des fictions n'est pas du tout annulé par cet assombrissement global de nos imaginaires. Il est peut-être encore renforcé par justement cette transition nécessaire, cette espèce de leap of faith, tu vois, final voilà. On a besoin de partir de quelque chose qui va être sombre pour que ça fasse écho, pour produire un sentiment de réalisme, tout simplement. Les ados et après eux, tous les consommateurs culturels ne peuvent plus croire à un monde où tout serait frais, vert et où tout le monde serait de bonne volonté. Donc voilà, une fois ceci posé, pour qu'il y ait un minimum d'adhésion à la vraisemblance de la diégèse, on va souvent aller assez loin dans la représentation de la noirceur humaine et de ce que peut produire l'absence de solidarité. Il me semble que c'est pour mieux promouvoir les valeurs inverses, de la même façon que le post-apo ne cesse de nous montrer ce que produit le déchirement. Ce que produit l'atomisation, ce que produit l'individualisation, et voilà, et de nous montrer comme rares héros parvenant à traverser la nuit, voilà, ceux qui réussissent à préserver une forme d'espoir ou de chaleur, ou voilà, tu vois, des choses comme ça.
Oui, c'est des formes de. Tu parles d'ère de la fiction, c'est aussi ce qu'on peut appeler le capitalisme de fiction, c'est-à-dire que. C'est aussi l'ère néolibérale et les monstres de l'ère néolibérale, c'est-à-dire cette idée de chacun contre tous, etc., etc., qui d'ailleurs, moi, m'avait beaucoup frappé dans Hunger Games. Il y avait ce moment très, très fort où donc les tribuns se préparent. Ils ne savent pas trop encore ce qui les attend. Ils sont dans une sorte de fête, etc. Et il y a donc juste… Katniss qui est dans son coin et qui est triste, enfin bon, qui est dans une sorte de down, et donc Petra vient la voir et dit ah mais qu'est-ce qui se passe tout ça, et elle dit je pense qu'il va falloir tuer tous ces gens, et en fait c'est vraiment un moment fort, et en même temps moi ça m'a automatiquement rappelé les entretiens d'embauche. C'est sûr que en tant que prof, on n'en a pas eu tant que ça dans notre vie, mais c'est le quotidien de tous mes amis qui travaillent pour l'entreprise et où on sait de façon très explicite qu'on est dans une chambre avec des gens, on dit « Ah, salut, ça va ?» et on est en…
Il n'y a pas un film là-dessus, un film espagnol ?
Oui, bien sûr, ça a été repris dans un très bon film dont je ne me rappelle plus le titre. Mais en fait, ce n'est pas juste le film qui le reprend, c'est que les entreprises font des jeux de fiction pour ce genre de trucs. Et j'ai des amis en ressources humaines qui sont de ce côté-là. Et donc, c'est le truc où tu as 5 personnes. Oui, tu es dans une île déserte. Toi, tu es un docteur. Toi, tu es tout ça. Enfin, le truc à la Lost. Et tu dois chacun défendre pourquoi c'est le meilleur et tout ça. Il y a d'ailleurs un court-métrage espagnol très bon sur YouTube où ça se passe très mal. Mais en fait, ce qui est assez curieux, c'est que cette idée du capitalisme de fiction qui est un peu… Plusieurs personnes parlent de ça. Bon, un peu Yves Citon qui, je pense, n'utilise pas le terme, mais c'est un peu cette idée-là. Dans Mythocratie, etc. C'est-à-dire que la fiction est aussi devenue un outil de pouvoir. Et donc, c'est assez curieux de voir comment les ramifications de la ludification, elles ne sont pas si ludiques que ça et elles sont très angoissantes. Donc, en fait, moi, j'avais établi ce parallélisme très rapidement dans mon esprit. C'est comme ça que j'avais vraiment perçu la scène comme une réflexion très, très lisible. Pour le truc de la SF du présent dont tu parles, donc comme une transposition très lisible de l'angoisse de la concurrence généralisée qu'on voit très bien ici en Amérique du Nord d'ailleurs, un peu moins en Canada.
Oui, et puis là, quand les tribus entrent dans l'arène, ils vont devoir se battre pour les ressources.
Oui.
Tu sais, les quelques armes, et donc voilà, ils doivent être les premiers à prendre les choses à la place des autres. Ceci dit, l'histoire de Hunger Games, même si Katniss en tue pas mal, exalte la force de la solidarité, comme tous ces ouvrages-là. Alors de manière peut-être naïve ou limitée, mais c'est en se mettant d'accord avec les autres que Katniss réussit à... Elle pourrait les tuer, elle ne les tue pas.
C'est d'ailleurs ça qui fait que du coup elle obtient l'adhésion et qu'elle devient une figure.
Tout à fait. Mais alors pour rebondir sur ton histoire de capitalisme, il y a aussi tous ces ça sert à construire des équipes.
Team building
spirit, etc. Ils font aussi beaucoup des Lego et ils font beaucoup de choses coopératives. Ils doivent, tu vois, construire chacun des tours et puis les faire se rejoindre avec des Lego.
Le recyclage de tous les gens qui sont dans le théâtre et tout ça, c'est de faire des cours pour ces gens-là pour qu'ils fassent de la détente et des trucs comme ça. Non, c'est un monde très bizarre où on vit de toute façon. tu parles justement, donc, dans ce paradoxe de ces fictions très noires, etc., etc., tu parles de ce côté optimiste qui, je pense, est tout à fait caractéristique de ce que tu, de ce que tu proposes dans le livre. Le livre est optimiste par opposition à une tradition, à comment on peut le vivre de façon plus apocalyptique. Et tu parles justement de l'idée, tu as ce terme de l'imaginaire engagé. C'est-à-dire qu'au fond, dans ces fictions-là, c'est à la fois l'idée d'une sorte de contestation de ce qu'on pourrait appeler un néolibéralisme extrême ou un capitalisme sauvage ou terminal, selon qu'on soit plus ou moins optimiste. Et d'un autre côté, l'idée que ce sont des genres, les genres de l'imaginaire, je te cite, sont des laboratoires des possibles. Donc, l'essor des genres de l'imaginaire dans le dernier tiers du XXe siècle peut ainsi être pensé, il l'est souvent, comme une réaction à ce qui s'est senti comme une fermeture de l'avenir, une perte de la possibilité de penser autrement l'évolution des temps, dont l'implacable slogan de Margaret Thatcher, « There is no alternative », est l'expression la plus achevée. Mais curieusement, je dirais que c'est quand même un paradoxe, parce que dans l'idée que ça ouvrirait des possibles dans le genre de l'imaginaire, on penserait plus à l'utopie. Et certes, il y en a quelques-unes, mais je pense que c'est beaucoup moins que dans l'idée de la dystopie. Et il y a la phrase de Jameson, reprise par Zizek, tout ça, que finalement, dans le capitalisme avancé, il est plus facile de penser la fin du monde que de penser un autre monde. Et on dirait que c'est un peu le problème de la science-fiction et de la fantasy assombrie, disons, c'est que ce n'est pas tant l'idée qu'on va penser comment on pourrait faire les choses autrement, et une utopie à la Thomas More, mais plutôt l'idée de comment survivre dans ce monde-là.
Oui, mais en même temps, c'est peut-être plus, tu vois, c'est peut-être plus efficace, hein, plus pratiquement efficient. Alors, sur la question du laboratoire des possibles, qui est en fait une expression qui m'énerve pas mal, utilisée à toutes les sauces sur la SF, je renvoie vraiment à Irène Langlais, auquel j'emprunte ces histoires. Alors, par contre, ce que je disais juste avant sur l'espèce de retournement dialectique des dystopies, c'est ça ma réponse. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des tentatives pour produire, par exemple, ce qui a pu être théorisé sous le nom de solarpunk. Des propositions alternatives positives, explicitement pensées pour faire contrepoint au grimdark et à l'idée que cet imaginaire serait désespérant. Je ne pense pas qu'il le soit, du moins dans la grande majorité de ses expressions, parce que précisément, il dit toujours, alors d'abord, l'existence de poches de résistance menacées, où s'élaborent des façons de vivre autonomes, collectivistes, do it yourself, etc. Ce qui sont globalement les solutions qui vont être proposées par la fantasy et la SF. Donc ces poches-là, en général menacées et en général détruites dans le cours de la diégèse, mais aussi une résistance plus profonde, humaniste, des héros qui refondent le monde pour finir. Un monde qu'on ne voit pas. C'est vrai, mais donc qui passe par la destruction en général d'un premier monde dystopique et le passage par un second monde trompeusement utopique. Parce que en fait, voilà, s'il y a plus d'utopie, c'est parce que l'utopie, ça ne fonctionne pas non plus. Ça fait trop longtemps qu'on sait ce qu'il y a derrière l'utopie, qu'on dénonce l'utopie, qu'on nous montre des mondes factices comme chez Philippe K. Dick ou dans... je ne me rappelle plus comment s'appelle ce film, hein, où il vit dans un... Donc voilà, tu vois, la simple utopie, elle est compliquée. Moi, ce qu'on appelle dystopie, je les appelle des utopies antimodernes. C'est-à-dire, je pense que fondamentalement, ce que ça produit chez les jeunes générations, c'est du désir de changement, du désir d'autres choses, du refus de ce qui existe et de l'idée qu'il y a une alternative. Il doit y avoir une alternative. Il faut se battre pour qu'il y ait une alternative. Si tu réduis le message à son os, c'est celui-là. Il faut se battre pour autre chose.
Donc, cet imaginaire engagé, tu l'associes aussi à l'autre phénomène, donc, qui est le nouveau rôle des lecteurs, spectateurs, consommateurs, prosumers, etc., qui est le passage de l'imagination à l'action, donc le fanactivisme. Et tu analyses notamment la Harry Potter Alliance, donc, qui vise à, je cite, exploiter l'énergie de la culture populaire à rediriger, to channel, canaliser de manière utile, les valeurs acquises à la lecture pour les traduire en action sur le monde. Et tu as cette belle formule qui m'a bien amusé, les millennials sont tous des orphelins de Poudlard. Et donc, justement, cette idée d'une génération qui n'a pas reçu sa lettre d'invitation à Poudlard avec son hibou, même si on peut le commander maintenant par Amazon. Cette idée-là qu'il y a à la fois donc, un engagement de l'imaginaire et un engagement par l'imaginaire, avec l'imaginaire, presque pour l'imaginaire aussi.
Oui, puisque une bonne part du fanactivisme, donc qui a été étudié par Jenkins, hein, par l'équipe de Henry Jenkins, et en France aussi par Mélanie Bourda, donc la Harry Potter Alliance, elle a été bien étudiée. Moi, dans cet essai, hein, c'est essentiellement une synthèse de travaux critiques qui existent, hein, pour permettre de les penser ensemble. Donc effectivement, une partie du fanactivisme est pour la fiction, c'est-à-dire consiste à défendre les œuvres de fiction qu'on aime, hein, soit pour qu'elles se continuent parce que les producteurs veulent les arrêter, soit pour qu'elles se continuent dans le sens où on le souhaite, hein, soit pour protester contre certaines évolutions non souhaitées par une partie des publics de ces fictions. Donc ça, c'est une grosse partie, hein, de ce qu'on appelle le fanactivisme. Moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est lorsque, effectivement, les récepteurs deviennent acteurs. Hein, et c'est le slogan de la Harry Potter Alliance qui est « To turn fans into heroes ». Tu deviens acteur, hein, de ta propre histoire avec des mots-clés qui vont être « empowerment », qui vont être « take back the narrative », hein, « ressaisis-toi du récit », réécris le récit, reprend le pouvoir sur le récit, et sachant que le petit récit est censé donner naissance au grand récit. Il se trouve que cette Harry Potter Alliance, elle a vraiment produit des très belles grosses campagnes de communication fortes sur des sujets vraiment directement politiques comme la légalisation des jeunes migrants aux États-Unis, l'augmentation du minimum horaire chez les employés des fast-food. C'est vraiment des choses très concrètes sur lesquelles ils travaillent d'une manière particulièrement efficace par le biais de leur symbolique puissante qu'ils empruntent à Harry Potter, à Hunger Games, à Star Wars. Cet ensemble de symboles, cet ensemble graphique aussi, leur permet d'avoir de produire des discours, de produire des images qui vont être très largement adoptées et qui vont porter leur cause.
Oui, tu cites aussi le masque d'Anonymous, évidemment, les servantes, donc de Margaret Atwood, les Jokers et autres mobilisations que d'aucuns appellent le terme de spectacle éthique, sorte de cosplay politique presque, on pourrait dire. Est-ce que c'est une sorte de carnavalisation de la politique? Tu parles à un moment donné, je cite, du fait que le moteur du débat public, comme l'espace de la revendication, se situe à l'évidence davantage désormais du côté de l'image et de l'imaginaire. Les élections réelles témoignent chaque fois un peu plus, de manière inquiétante, d'une fatigue de la démocratie représentative et d'une exaspération des votants, tandis que les conflits herméneutiques suscités par les fictions enflamment et passionnent. La force que les publics tirent de l'expression directe sur les réseaux sociaux, dans des actions et manifestations, et celle qu'ils prêtent aux fictions qui peuvent s'en faire les porte-voix, semble en proportion inverse de l'impuissance à agir sur la représentation politique. Donc, un autre paradoxe d'importance.
Oui, non, ça, c'est vraiment celui qui effectivement, me semble le plus important sur pour la question politique de l'imaginaire. C'est qu'effectivement, l'engagement est aujourd'hui du côté de l'imaginaire. Or, l'engagement, c'est de ça qu'on a besoin en politique et pour changer le monde, cet enthousiasme, c'est de capacité à se mobiliser pour quelque chose. Or, aujourd'hui, ces capacités-là, elles sont très largement mobilisées autour de fiction et d'univers fictionnel. Sauf que, elles peuvent, cet engagement lié à cet attachement, cet affectif et cette manière dont on est directement touché et mobilisé par ce qu'on voit, qui nous est raconté, s'il l'est de manière suffisamment forte et puissante, on le voit se rediriger vers des causes réelles. L'exemple des Servantes écarlates est de ce point de vue très, très frappant, puisqu'on a ce roman de Margaret Atwood, remobilisé par la série télévisée, une série télévisée que finalement assez peu de monde a vue. Moi, la première, parce que assez vite, c'est trop atroce, tu vois, je ne peux pas regarder ça, ça me fait trop mal. Et donc, par contre, tout le monde sait de quoi ça parle. Tout le monde sait que il est question d'une prise de pouvoir d'extrême droite en Amérique du Nord, de la République de Gilead, et que la stérilité s'est tellement développée que le corps des femmes est désormais la propriété de quelques-uns. Et ça, ce pitch-là, plus les images très fortes qui leur sont associées, mobilisent autour du, enfin, permet de mobiliser et d'attirer évidemment l'attention médiatique, puisque c'est aussi un des grands buts, hein, de ces reprises-là. Tu parlais de la carnavalisation, elle permet à la fois de faire plaisir aux gens qui participent, de faire en sorte que la participation soit plus facile et plus agréable, parce que voilà, on ne va pas juste aller marcher dans les rues, on va se déguiser ensemble, on va être dans une forme de sororité plus étroite. Donc, à la fois pour que les gens qui participent y prennent plaisir et puis ne s'y épuisent pas, puissent se relayer. Le costume, le masque, ça sert à ça. Ça sert aussi à ce que la personne ne soit pas visible, donc ne soit pas mise en danger par sa participation, et puis qu'elle soit remplaçable. Une autre personne peut prendre le costume. Ça, moi, j'ai fait plein de manifs comme ça où il y a un sac avec des déguisements, et puis quand tu dois repartir, tu t'enlèves le déguisement, tu le poses, et puis en général, comme il y a plein de gens qui veulent participer, tu le poses pas, tu le donnes directement à la personne qui était à côté de toi et qui n'était pas déguisée. Et donc il y a vraiment une espèce de passage de relais. Donc ça sert à ça, et ça sert à ce que la chose soit plus belle, plus spectaculaire, et donc plus médiatique, et donc puisse être reprise sur les canaux de circulation qui sont absolument nécessaires à la bonne prise en compte d'un combat politique aujourd'hui.
Là aussi, la version noire de ça, ce serait justement le triomphe de la société du spectacle vu par Debord et la spectacularisation totale de l'existence quelque part, si on voulait faire la vision noire de ce versant-là. Mais justement, tu t'intéresses aussi de façon à voir un peu les différents enjeux qui peut y avoir dans un autre passage. Penser en termes de pertinence de l'enchantement ne doit pas amener à craindre que les fictions soient désormais condamnées à être moralisatrices ou à message, car si elles sont perçues comme telles, elles manqueront à coup sûr leur but. Ça deviendra un peu comme une sorte de propagande qui intéresse personne. Et dans l'autre sens, il ne faut pas non plus surinvestir la puissance transformative des fictions pour bien se rappeler que les représentations d'une diversité positive demeurent confinées dans le cercle magique de la fiction, profitent toujours aux industries culturelles et ne sauraient se substituer aux actions politiques et aux avancées légales ou socio-économiques qui doivent les accompagner pour assurer l'égalité réelle et l'épanouissement de chacun. Donc tu fais, disons, la part des choses entre les deux types de discours, ce qu'Umberto Eco appelait les apocalyptiques et les intégrés, c'est-à-dire ceux qui disent tout va mal dans la culture pop, c'est l'aliénation, tout ça, et ceux qui disaient c'est magnifique, la culture pop, c'est l'expressivité, c'est le côté express yourself, tout ça, tout ça. Donc au fond, c'est toujours un peu cette idée, ce qu'on essaye aussi de faire avec Pop en Stock, cette idée de sorte de troisième voie, de juste milieu peut-être, en tout cas de vision de ces deux côtés-là, ce que Umberto Eco d'ailleurs proposait lui-même. Il ne s'identifiait ni aux uns ni aux autres. Tu parles dans un autre chapitre des guerres culturelles et cette fois-ci, tu évoques l'origine du terme, etc. Et cette fois-ci, beaucoup à l'intérieur du fandom, la transposition de guerres culturelles qui avait surtout été l'objet autour de l'art contemporain, par exemple, qui était donc dans les circuits de légitimation, de pouvoir symbolique et la haute culture, tout ça, et qui maintenant s'investissent beaucoup plus du côté de la culture pop et du côté du fandom. Et tu évoques notamment plusieurs exemples, mais toute la question de Star Wars, non ? Que on sait à quel point c'est un fandom, voire plusieurs fandoms, un fan world. Oui. Tu évoques l'expression donc de Jenkins de fan world plutôt que fandom, puisqu'effectivement c'est maintenant devenu une sorte d'univers contesté. Ce n'est plus une sorte de confraternité de gens qui aiment les films. Maintenant, c'est devenu quelque chose. Tout le monde aime les films, donc ça ne peut plus être un trait d'identification aussi fort. Et maintenant, c'est beaucoup plus la question de comment on aime ces films, comment on s'engage dans ces films, etc. Et je te cite donc par rapport à l'opposition entre différents groupes d'amateurs de Star Wars. Ceux qui, tout en se réjouissant de l'audience extrêmement large, désormais acquise à leur goût, longtemps considérée comme puérile, c'est tout à fait ça, esthétiquement contestable et d'un intérêt intellectuel limité, se considèrent néanmoins comme les gardiens d'un temple, celui de leur mémoire commune, petit, isolé mais confortable, assiégé, voire vandalisé par ses nouveaux occupants, et ceux-ci, les nouveaux, jeunes, nombreux, qui, quand ils s'en préoccupent, voient dans la galaxie Star Wars l'écho de leurs préoccupations contemporaines. La pérennité de l'univers fictionnel, perméable à son contexte, l'expose à devenir la chambre d'écho de conflits générationnels ou intra-générationnels. Je pense que c'est aussi une belle vision sereine de ce qui se passe, non ? Tous ces débats dans tous les sens qu'il y a avec chaque nouveau, même plus chaque nouveau film, c'est chaque nouveau trailer, chaque nouvelle petite communication de la franchise, on va faire tel truc, ça va être tel acteur, actrice, etc. Bon, c'est tout de suite un tollé incroyable et c'est tout de suite des polémiques byzantines. Et donc, tu évoques bien le paradoxe qu'au fond, ce n'est plus tellement une... qu'au fond, c'est vraiment un territoire contesté. Ce n'est plus quelque chose qui peut être tout simplement... revendiqué par ceux qui, depuis les années 70, se sont réclamés de Star Wars, mais qui maintenant est désormais passé à un autre niveau.
Oui, alors ça va avec l'expansion dont on parle depuis le début, hein, voilà, des fandoms au fan world. C'est effectivement c'est Matt Hills qui dit ça. Donc à partir du moment où c'est un monde et où c'est considéré comme un monde et où on est de plus en plus nombreux à l'habiter, bah forcément des rivalités se créent qui sont exaspérées par ce que je décris là, c'est une logique qui est très forte dans le milieu de la SF plus généralement. Enfin, voilà, chacun des objets de la SF qui est une logique de ghetto. C'est-à-dire qu'à la fois, on souffrait. Et toujours, hein, c'est un discours qui est toujours très, très prégnant dans le milieu de la SF et de la fantasy. On estime qu'on souffre d'une insuffisante reconnaissance extérieure. Parce que voilà, nous on est parti du principe que c'était des objets très massifs, très reconnus, que au contraire la littérature blanche c'était un truc de niche et vraiment des poches de résistance. Mais c'est pas comme ça que c'est vécu de l'intérieur. Enfin voilà, moi j'ai constamment des gens qui viennent avec des témoignages de comment leur goût n'est pas accepté. Voilà comment ils se sentent marginalisés par des tenants de la culture. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui reste très, très puissant dans les perceptions individuelles des gens qui aiment l'imaginaire. Ils se sentent marginaux, ils se sentent ghettoisés. Et en même temps, comme toutes les attaques sur des identités bien constituées, dès lors que leur goût se démocratise, ils le vivent aussi très mal. Donc voilà, c'est un des paradoxes, on y revient, assez fondateur de ces identités faniques longtemps sous-culturelles et voilà, qui continuent à se vivre comme tels alors qu'ils sont désormais centraux et hégémoniques. Donc il y a une friction très importante entre ces deux perceptions et effectivement ensuite des conflits qui sont liés à la durée. C'est-à-dire que ça va avec l'hétéronomie dont je parlais. Ces univers sont aujourd'hui très, très pérennes. Et l'hétéronomie de la culture populaire fait qu'à chaque époque, elle est complètement perméable aux questions de société. Et les questions de société se renouvellent en permanence. Et donc, la lecture qui est faite de ces œuvres est vouée. Alors, soit elles disparaissent, elles se périment, parce que justement, elles ne sont plus audibles idéologiquement, parce que voilà, le contexte de réception s'est trop modifié, et donc elles sont perçues comme intolérables. Voilà, ça arrive à plein d'œuvres. Mais si elles doivent durer, eh bien, elles vont devoir se soumettre à des réinterprétations souvent drastiques et à des processus de réécriture qui vont être vécus comme du révisionnisme par ceux qui étaient les tenants de l'idéologie précédente et qui ne voient pas comment ça s'est transformé. Parce qu'ils l'ont reçu, ils l'ont perçu à un moment et ils ne sont plus pour eux l'œuvre n'est plus perméable à ce qui apporte les nouveaux yeux qui la considèrent.
Oui, tout à fait, c'est une sorte de double bind de Star Wars, c'est que soit quand on fait le même, il y a le reproche d'être tout le temps dans un recyclage qui n'apporte rien, qui n'a aucun intérêt, et dès que l'on change, c'est considéré comme une trahison par rapport à une tradition, etc. Donc, c'est sûr que j'aimerais pas être dans la franchise Star Wars à devoir prendre des décisions, même si le courant actuel est assez clair aussi. Je pense qu'il y a eu une période de transition et en même temps, tout ça est en train de se recadrer par rapport à la...
Oui, autour de Disney+. Hein.
Pour les guerres culturelles, tu parles aussi, je te cite à nouveau, la démarche oppositionnelle des fans d'imaginaire marquant le passage de la culture de masse à la culture populaire, ce qu'on évoquait tantôt, de ce qui est consommé à ce qui est approprié, pourra aussi consister à ouvrir des alternatives au sein même de la narration partagée, à proposer des contre-récits qui, pour nombre d'eux, font entendre des voix habituellement minorées. Et en relation avec ça, tu parles de la question du terme de représentation avec le rapprochement de deux principaux sens intérieurs, l'un du côté des processus fictionnels, c'est-à-dire représenter comme donner à percevoir quelque chose, l'opération de la mimesis, et de l'autre côté, le fonctionnement démocratique, le fait de représenter quelqu'un, la Chambre des représentants. Et là, il y a à nouveau un peu un paradoxe et un glissement dans cette idée même de représentation. L'idée que justement, parce que c'est dans une fiction, ça doit automatiquement représenter un état sociétal souhaité ou autre. Donc c'est un nouveau.
Oui, c'est un. En fait, c'est un glissement de sens qui m'a vraiment frappé. Il y a, je sais pas, peut-être une dizaine d'années, quand mes étudiantes ont commencé à utiliser le terme représentation tout court, au sens de représentation fictionnelle des diversités. Mais il est, enfin, il n'y avait pas besoin d'ajouter d'autres précisions pour que la représentation ce soit ça. Et donc voilà, ça m'a semblé vraiment vraiment intéressant, vraiment significatif. Et c'est pour ça que dans le passage, un passage que tu citais précédemment, j'attire l'attention sur le fait que, alors certes, les fictions font bouger les choses. Elles font bouger la manière dont on conçoit les choses, et c'était déjà une grosse partie des choses, la manière dont on les conçoit. Donc oui, bien sûr, le fait de représenter un président noir ou une femme président habitue les publics à la possibilité que ça existe et que ça ne constitue pas quelque chose d'anormal ou de choquant. Le cas de la représentation des homosexuels est bien connu et de ce point de vue une très grande réussite. C'est-à-dire que le fait de mettre des personnages homosexuels dans toutes les téléréalités et dans toutes les fictions de groupe, alors d'abord sous des formes très caricaturales, voilà, des formes très typifiées, la folle, enfin, le copain, le sidekick, etc. Ça a fait petit à petit bouger les choses au niveau de l'acceptabilité sociale de ces orientations sexuelles qui a fondamentalement progressé sur la même période et qui a permis progressivement des types de représentations beaucoup plus nuancées et beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus satisfaisantes. Le combat n'est pas fini, mais bon, c'est un exemple qui fonctionne bien. Ceci dit, ça ne fonctionne que si l'appareil législatif, des protocoles sociaux prennent le relais. C'est-à-dire que voilà, il faut aussi qu'il y ait le mariage pour tous, il y ait l'adoption possible, voilà, les familles homoparentales soient mieux considérées, ne soient pas stigmatisées. Voilà, la fiction ne suffit pas, et ça, les tenants de la représentation, voilà, ne doivent pas s'y arrêter, ne doivent pas se focaliser exclusivement sur ces questions-là. C'est une étape et pas autre chose, et effectivement c'est non seulement une étape mais plusieurs étapes, c'est-à-dire une étape qui nous fait partir du stéréotype qui du moins est là, hein, qui est mieux que l'absence totale ou que l'invisibilisation absolue, et nous fait avancer vers des personnages dont la présence est totalement normalisée et dont la psychologie peut être fouillée pour elle-même et non pas en fonction d'éléments clés de représentativité. Donc en fait la représentation, elle est là pour ultimement s'effacer. Et c'est ça c'est ce travail-là qu'il faut essayer de faire sans s'arrêter à une de ces étapes.
Oui, tu parles aussi dans un dernier mouvement du règne des publics, et tu évoques cette polémique aussi assez curieuse qui est la mort de Jack dans le Titanic, et donc qui a opposé les fans à James Cameron, qui finalement, excédé par ces polémiques-là, a fini par dire « c'est comme ça parce que c'est comme ça ». Et donc, c'est l'argument de « author says so », donc qui est honni par, je te cite, par les praticiens, praticiennes et théoriciens, théoriciennes de la fanfiction, qui ont beau jeu de clamer que l'auteur a été déclaré mort par Roland Barthes notoirement, oubliant bien sûr que cette mort devait marquer l'avènement du texte dans sa littérarité ou sa signifiance délivrée de l'intention auctoriale, plutôt que de permettre la concurrence des versions de la réalité. Donc, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, l'idée de donc take back the narrative, reprendre le contrôle des récits par les fans qui se considèrent dotés d'autant de droits, voire peut-être plus, que les auteurs eux-mêmes.
Oui, c'est ce conflit d'autorité, effectivement, c'est un autre des aspects politiques, hein, sous un autre angle, hein, peut-être plus abstrait, mais qui me semble complètement corrélé, dont j'ai voulu parler dans cet ouvrage. Hein, et en l'occurrence, donc, ça passe beaucoup, comme dans le cas de James Cameron, par le refus de la fin. Et donc, le refus des décisions qui vont être prises pour terminer un récit et qui sont perçues comme autoritaires. Et donc, voilà, il y a des conflits d'autorité qui se posent, parce qu'en même temps, on n'a pas tellement de solutions sur comment faire pour se mettre d'accord sur un récit commun dès lors qu'on a décidé qu'il n'y avait plus d'autorité valable. Donc on a toujours cet aspect exaltant de la multiplication des récits, et voilà, et en même temps quelle serait la bonne version, quelle serait la bonne fin, ça reste du ressort de quelqu'un de décider ce que sera le canon, hein, ce que sera le fanon, dans quelle mesure ils vont pouvoir pas se converger, hein, ou du moins produire des choses compossibles, compatibles. Donc c'est une des grandes, c'est un des grands défis des récits contemporains, cette histoire. Donc effectivement des polémiques qu'ils suscitent à chaque étape, mais en particulier de leur gestion de leur propre fin, c'est-à-dire du moment où les choses sont dites, du moment où le récit prend son sens, parce que tant qu'il est à continuer, il peut toujours se reconfigurer, il peut toujours revenir sur ses propres pas, il peut toujours s'inventer des portes de sortie ou des pistes parallèles. Mais voilà, quand on dit que ça finit comme ça, c'est comme chez Aristote ou comme la manière dont on décide si on a eu une bonne vie ou pas, hein, c'est seulement au moment où ça se termine que ça se joue.
Non, c'est Sartre, oui, tout à fait. Puis aussi, curieusement, ça a été une longue histoire, les fins dans l'histoire du cinéma, l'histoire des fictions populaires, ça a souvent été les points les plus polémiques à l'intérieur même de l'industrie culturelle, c'est-à-dire que c'est souvent pour les fins que les réalisateurs, scénaristes se sont battus, toute la question des fins alternatives qui ont été proposées pour différents films, et les fausses fins, où on sait que…
Ouais, les director's cut.
Et tout ça. Donc, c'est une longue histoire, mais ce qui est assez curieux, c'est justement le fait qu'on passe du côté de la tradition, par exemple, du fanfiction, qui fait que, bon, bah, si on n'a pas aimé la fin, on invente une autre fin. On est passé de ça à l'envie d'exiger que cette fin soit réparée, comme pour la fin de Game of Thrones, la pétition que tu cites, pour que le dernier épisode soit fait par des scénaristes vraiment compétents. Donc, avec cette idée que c'est des nuls qui ont pris des mauvaises décisions et qu'il faut absolument réparer ça. Donc, c'est assez curieux cette volonté. Donc, qui est passé comme un cran au-dessus quand même, qui est l'idée de dire non, mais non, là, c'est moi le spectateur, c'est moi qui décide. Au fond, c'est presque aussi une volonté vidéoludique d'interaction. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a beaucoup promis les fictions interactives. Je me rappelle que dans les années 90, c'était un truc où les gens parlaient beaucoup des fictions interactives, tout ça. Puis maintenant, on a complètement oublié cette question. Enfin, pas complètement, mais disons que la promesse de la fiction, c'est un peu comme les voitures qui volent. La promesse de la fiction interactive n'est jamais tout à fait arrivée. Il y a eu le truc pour…
Le Bandersnatch.
Oui, c'est ça, le truc de Dark Mirror, tout ça. Mais bon, c'est resté pour l'instant… vraiment juste.
Mais parce qu'en fait, c'est pas satisfaisant en soi.
C'est ça.
On n'a pas envie d'avoir une fin pour chacun.
C'est ça qui est bizarre.
On a envie d'avoir une fin pour tout le monde, mais que ce soit la nôtre, que ce soit la bonne.
Au fond, c'est quand même, il y a un problème de la culture du narcissisme dans tout ça. C'est un des termes que tu ne.
Mais non, c'est de la démocratie. C'est, la, moi, c'est, je vois vraiment là une expression démocratique en fait. Le public, il dit j'exige parce qu'ils ont pris le pouvoir. Ils estiment que, enfin, en fait, ils l'ont pas, hein, mais
non, pas du tout. D'ailleurs,
ils l'ont quand même plus qu'avant, hein, mais ils l'ont plus qu'avant. Et donc, ils estiment qu'ils peuvent, qu'ils ont pris un certain pouvoir, et ils veulent exercer ce pouvoir, hein, sur ce qui est plus ou moins encore entre leurs mains, à savoir les récits qu'ils aiment.
Oui, mais moi,
C'est ça qu'ils font.
Je vois quand même le triomphe du moins à chaque fois qui était un peu dénoncé dès les années 70. Mais bon, c'est sûr aussi que sur ça,
Ah, c'est
précisément.
des mouvements qui sont collectifs, hein.
Oui, mais cette idée que ça satisfasse, que ça me satisfasse moi en tant que spectateur, c'est-à-dire recentré sur mon expérience de spectateur, je pense que c'est.
Ben oui, mais tu vois que non, parce que le truc d'interactif, c'est pas ça non. Enfin, c'est pas si chacun choisit sa fin. Je pense pas que c'est ça qui est visé. Donc c'est pas uniquement une question de narcissisme. C'est pas la fin que moi je veux. Enfin, si, c'est la bonne fin. Alors après, on n'est pas tous d'accord sur la bonne fin, mais il faut qu'elle soit collective. Ça, je pense que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut qu'elle soit collective, cette fin, que si elle est individuelle, elle ne sera pas satisfaisante.
Est curieux parce que, bon, évidemment, c'était 1 million de pétitions. Je pense que c'était pas grand-chose comparé aux plusieurs millions de personnes qui ont vu. Donc, bon, d'un point de vue démocratique, ça n'a pas marché. Mais d'un autre côté, curieusement, au fond, la télévision, c'est déjà un médium énorme où les équipes, il y a énormément de dialogisme. C'est-à-dire qu'en fait, il y a déjà énormément de débats et qu'ils sont de plus en plus de concert avec les fans parce que c'est devenu aussi le fan service, etc. C'est devenu aussi une façon de fonctionner des nouvelles fictions que d'utiliser, de mettre à contribution les fans. Et on peut même parler à ce niveau-là, d'un point de vue capitaliste, d'optimisation. C'est-à-dire qu'on fait travailler les fans pour trouver des solutions narratives, etc., etc., un peu comme on fait travailler les gens à peu près pour tout et sans leur rien payer dans le nouveau
Oui, bah oui, le travail gratuit
journalisme.
sur Internet,
Ouais,
et
c'est
la
ça. Donc,
production de contenu gratuit en particulier.
il y a ces logiques-là plus sournoises d'exploitation qui sous-tendent ces logiques-là. Mais donc, finalement, dans la conclusion, justement, tu reprends un peu cette vision entre les différents écueils. Donc, reprendre donc le contrôle des récits devrait aussi consister à chercher comment dépasser les contradictions que cette réflexion finale soulève encore, attendre des fictions commerciales les clés d'une réflexion subversive, savoir que l'actuel n'est plus supportable, mais vouloir que tout demeure possible, attendre la fin, mais ne pas tomber d'accord sur ce qu'il convient de rêver à la place. On peut regretter ce qui serait compris comme une perte de substance inhérente à la qualité artistique. On peut aussi se réjouir que les œuvres de l'imagination fonctionnent encore, qu'elles tiennent leur rôle autrement pour des nouvelles générations et des publics plus nombreux, plus divers. Et enfin, dans ton paragraphe final, entre la peur de l'aliénation par l'évasion, manipulée en sous-main par des maîtres du storytelling qui luttent pour notre temps de cerveau disponible, donc la nature commerciale des productions, et le fantasme d'une foule braillarde et désordonnée, tout juste capable d'opposition violente, l'arène politique virtuelle des publics, il importe de préserver l'enchantement nécessaire et de ne pas se livrer au seul air du temps. Ce qui fait le prix des genres de l'imaginaire, c'est en effet ce fameux espace des possibles, ce pas de côté libérateur qui implique des œuvres, qu'elles émanent des singularités créatrices ou de réflexions collectives, de maintenir et de renouveler constamment une distance, une ouverture. Et pour que les autres mondes possibles des fictions de l'imagination demeurent des inspirations pour nos aspirations, car qui sait à quoi ressembleront nos avenirs. C'est une belle conclusion, et je pense que ça résume, outre beaucoup de propos qui sont dans le livre, je pense que ça résume justement cette volonté, non, de ne pas s'aveugler, soit par le côté purement anxiogène, parce qu'il y a un côté anxiogène. Avant, on n'aurait jamais pu imaginer qu'un film allait provoquer tellement de. J'imagine les acteurs, les auteurs, les acteurs, tout le monde maintenant est jugé par tout ce qui entoure leur film. Les gens jouent leur carrière carrément là-dessus. S'il y a un défaut considéré par les fans de représentation, etc., ça peut être la fin d'une saison, ça peut être la fin d'une série, ça peut être la fin d'une carrière d'acteur, de scénariste, de tout ça. Donc, quelque part, il y a aussi une étrange extension du néolibéralisme dans le sens où il y a une pression de plus en plus forte sur chacun par les attentes du marché. Et de l'autre, donc on peut se livrer à quelque chose d'un peu anxiogène et de l'autre se dire qu'il y a quand même donc ces aspects positifs qui émergent et qui sont peut-être dans une phase de transition. Peut-être c'est ça qui fait qu'on n'est pas tout à fait, que c'est pas tout à fait clair encore si dans quel sens ces mutations sont en train d'aller. Parce que tu l'évoques à un autre moment, Il y a le fanactivisme positif du type Harry Potter Alliance, mais il y a le fanactivisme totalement, qu'on dit maintenant, toxique. Ce n'est pas gagné ni d'un bord ni de l'autre. Qu'est-ce qui va prendre le plus le dessus? Moi, j'avais travaillé sur les clowns maléfiques et donc les Jackaloos et tout ça. Enfin bon, c'est pas clair toute cette histoire de la fiction populaire dans l'arène politique, parce que c'est pas clair l'arène politique en ce moment vers où s'en va. Et c'est justement le sens un peu de ta clausule finale. Donc
oui, alors sachant que moi, effectivement, souvent nos dialogues sont ceux du pessimiste toi et de l'optimiste moi. C'est simplement la question. Effectivement, c'est pas clair. Après, le message final qu'on a envie de transmettre, c'est ça qui importe. Or, pour moi, ce qui politiquement importe, c'est, je l'ai dit, c'est l'engagement, c'est l'enthousiasme, c'est de ne pas désespérer. Parce que voilà, le there is no alternative, il sert juste à ça, à te dire, c'est pas la peine d'y croire, c'est pas la peine de te battre, arrête-toi tout de suite. Je pense que nous n'avons de chance, nous n'avons pas d'autre possibilité que de continuer à générer en permanence des raisons d'y croire, et donc de la joie et donc de l'espoir, etc. C'est ça le carburant qu'on trouve dans les fictions, qu'on trouve et qu'on apporte dans les fictions. Et donc, c'est vraiment ce type de mobilisation-là auquel j'essaye, in fine, d'appeler. Oui. Sans être dupe, parce que je connais bien le champ et je connais bien ses problèmes. Mais voilà, le dernier mot, ça doit être celui-là.
Oui, et ça fait du bien, ton livre. Je pense qu'il s'inscrit dans un moment nécessaire. Je pense qu'il y a tout un mouvement d'analyse politique des imaginaires. Tu citais à un moment donné dans le texte le livre de Pablo Iglesias, vice-président maintenant de l'Espagne et à la tête de Podemos, lui et son équipe ont fait plusieurs livres sur Jeu de Trône, par exemple, ce qui était assez surprenant aussi de la part de marxistes convaincus que leur publication ce soit sur Jeu de Trône. Bon. D'ailleurs, Iglesias avait offert le jeu de trône au prince devenu roi d'Espagne dans une cérémonie. Je pense que c'était dans la cérémonie où il est devenu roi. Et donc, c'est curieux parce qu'il y a clairement ce mouvement de fond aussi chez nous du point de vue de la réflexion et chez les militants, les activistes, etc. Et donc, c'est vraiment une belle contribution qui aide à éclaircir des choses qui autrement sont souvent très partisanes dans un sens comme dans l'autre. Donc, je pense que ça, c'est un des. Pour ma part, c'est aussi le côté sympathique du livre.
Ben, merci.
Oui, absolument. Puis, effectivement, c'est cette sérénité que moi je vois, ou c'est peut-être ma recherche de sérénité qui infléchit ma lecture, mais je pense que c'est un peu ça que ça apporte. Et c'est un regard très important pour tous ceux qui nous écoutent, celles qui nous écoutent, et qui se posent toutes ces questions-là. Je pense que c'est une bonne manière de cadrer le débat, et je pense que ça va pouvoir apporter aussi des éléments à ce débat, qui a besoin justement d'un peu plus de sérénité, et puis de voir, parce que c'est un des grands dangers, je pense, de la polarisation des réseaux sociaux, etc., etc., c'est qu'il est de plus en plus difficile de voir comment les autres pensent, c'est-à-dire. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que tu fais des va-et-vient et où tu regardes les choses de différents points de vue, parce que je pense que c'est ce qui est maintenant devenu, qui est en danger pour la démocratie, justement. L'idée que chacun s'enferme dans une sorte de vertu suprême et qui fait que l'autre est juste un ennemi à abattre, donc une logique de guerre civile. Et au fond, c'est bien qu'il y ait encore ces voix au-dessus de la tourmente. Donc, merci beaucoup, Anne.
Merci beaucoup, Antonio.
Bon, merci beaucoup. Merci à tous ceux et celles qui nous écoutent. Et donc, à une prochaine fois.